Aurélia de Gérard de Nerval. Introduction de Jean Giraudoux.
Enregistré par Christiane Johan.
Il est une catégorie d'écrivains auxquels notre imagination a réservé en nous une place si sûre qu'il nous paraît parfois presque superflu, non certes qu'ils aient existé, mais que nous les lisions. Logés en particulier au point douloureux de la pensée française, car c'est aux écrivains français surtout que je pense, le rôle qu'ils jouent a suffisamment d'importance pour qu'on leur pardonne d'être le plus souvent de médiocres acteurs et que leur tienne lieu de talent la lumière tragique dont leur place est marquée. Il fallait qu'ils existassent, et il est curieux de voir que ce caractère de nécessité absolue s'attache surtout à ceux dont l'existence fut une suite de hasards, de rêves ou d'accidents. Peut-être cette mission est-elle dans les littératures malheureuses réservé aux écrivains logiques et satisfaits. Mais chez nous, Gilbert, Malfilâtre et Gésippe Moreau ont une renommée sans rapport avec leur médiocre talent, parce qu'ils nous semblent produits par une loi plus fatale que Chénier ou Chateaubriand. La présence de La Fontaine, de Racine, dans notre littérature n'a rien de nécessaire ou d'inéluctable, et la plupart des œuvres de nos grands hommes n'y sont que des suppléments divins, et la révélation d'un génie en France se traduit presque toujours par un supplément d'aération et non de poids. Mais il n'en reste pas moins que toutes ces œuvres heureuses sont alignées sur une ligne de malheur que jalonnent chaque siècle deux ou trois témoins de valeurs souvent contestables, et par lesquels est affirmé, à coups de misère et de mort, entre tant de fêtes et de beaux gonflements d'âme, le danger mortel, je ne dis pas de la pensée, mais de l'écriture. Bien qu'ils en soient les personnages les plus médiocres, ils n'en sont pas moins les vrais prêtres de notre art, et par une contradiction que ne présente aucune autre littérature, la France a ce privilège, ou cette infériorité, que les grandes douleurs n'y soient pas forcément portées par les grands hommes. Nous en éprouvons parfois un peu de gêne. On aime sans réserve voir crucifier que les dieux, et de là s'explique l'intensité de notre émotion, si différente d'une émotion littéraire, est tellement semblable à la reconnaissance, quand le sort confie ses fonctions sacrées et réserve ce supplice à Villon ou à Baudelaire. Je donne là une des raisons qui m'ont poussé, ainsi que beaucoup d'autres, à remettre si longtemps la lecture de Gérard de Nerval, une fois que j'eus commencé à le lire, la lecture d'Aurélia. Ce n'était pas du tout cette appréhension des grandes œuvres qui nous éloigne parfois d'elles autant par timidité que par désir de garder vierge le plus longtemps possible le sens qu'elles ne peuvent manquer d'émouvoir en nous et qui, quand une guerre survient, amène tant de jeunes gens au matin d'un assaut, furieux de mourir sans avoir lu Le Rouge et le Noir ou Le Discours sur la méthode. Ce n'était pas l'effet de cette illusion que peuplait son imagination de chefs-d'œuvre non lus. C'est la seule façon de la peupler aussi de tous les chefs-d'œuvre non écrits, de tous les chefs-d'œuvre du futur. C'est simplement que la nécessité de Gérard de Nerval était si grande que celle de son talent ne l'était pas et que je voulais m'épargner une désillusion. Le plus léger des talents démoniaques, la plus médiocre des douleurs, eût suffi pour marquer la place de la poésie entre les romantiques français. Ce n'est pas qu'ils aient manqué de génie, et il serait de mauvaise foi de suspecter leurs élans parce qu'ils les ont menés presque tous à leur 80e année, ou leurs déchirements intérieurs parce qu'ils les ont rendus sénateurs inamovibles. On ne saurait en vouloir à un romantique de bien prendre le sens d'un siècle de son âge et de devenir centenaire. Mais ils ont été les premiers fonctionnaires de lettres qu'ait eu notre pays. C'est par une exploitation juridique de leur délire qu'ils ont créé en France le statut de l'écrivain. C'est leur renoncement devant la grandeur de la nature qui leur a fait réclamer avec intransigeance la liberté des lettres. Non-sens absolu pour les poètes, comme eux, fatalistes et déterministes. Au lieu de juger que tout coup du sort porté à un vrai poète est la seule chose qui puisse lui rendre sa liberté vis-à-vis de la Providence et des hommes, ils se sont acharnés à revendiquer pour leur confrérie ce que les autres corporations appellent la liberté, c'est-à-dire une charte, c'est-à-dire un respect mutuel des lois et des habitudes, c'est-à-dire l'esclavage. Jamais esclavage il faut le reconnaître, ne fut demandé avec plus de superbe et accepté avec plus de condescendance. Mais l'atmosphère qui baigne les contemplations, Jocelyn ou même les nuits, s'avère lourde de conséquences fructueuses en ce qui concerne la propriété littéraire et les droits de reproduction. Or, tout ce que l'on raconte de Gérard de Nerval donne l'impression d'une liberté souveraine. Tout ce qui est la caractéristique de la liberté, le souvenir, l'oubli, la douceur, la connaissance de l'allemand, l'amour des prénoms féminins non portés par des saintes, le manque absolu de vanité, c'est la caractéristique même de Nerval. Cette liberté subsiste jusque dans l'interprétation que l'on peut faire de sa vie. Il a voulu, par son suicide, lui donner un sens tragique. Mais au matin même de sa mort, il lui était encore possible d'en faire le modèle d'une vie, ne disons pas heureuse, mais bien heureuse. Ce n'est pas de ces misères qu'il a composé son malheur, chacune au lieu de le rattacher impérieusement au monde l'en détachait. C'est au contraire de ses aises, de ses voluptés, de ses nuits sur le Bosphore ou sur le Valois, si bien que pour la première fois un sentiment de luxe et de rareté se glisse, à propos de Nerval, dans ce mot de malheur. Il n'a été ni méprisé ni orgueilleux, il n'était solitaire que quand il désirait la solitude. Rarement les douleurs ont été traitées ici-bas de cette façon à la fois naïve et royale. Alors que les autres romantiques insistent de façon parfois impudique sur la douleur elle-même, Nerval l'enjambe, la tait, comme il se tait sur l'amour lui-même pour n'en admettre et n'en éprouver que les effets. Si bien que de cette existence qu'on dit malheureuse, tout est connu, tout est visible, excepté justement les malheurs. C'est cette aisance, dès les premières lignes, qui nous attache pour toujours à Nerval. Et nous fait sentir combien ses contemporains sont plus parvenus dans la plainte que dans la jubilation. Il serait faux cependant de dire que sa mort seule a fourni à la vie de Nerval cette ombre dont elle semble doublée. Si Théocrite s'était donné la mort, son œuvre n'en serait pas tragique. Nerval est le Théocrite d'outre-terre. Tout ce qu'il y a dans ses nouvelles de pastoral, de poétiquement réel, s'éclaire toujours intérieurement d'une lueur, sourde, mais qui arrive dans notre esprit à l'emporter sur le soleil dont leur surface est baignée. Au-dessous de ces couleurs si vives, juste au-dessous, est le domaine où l'on ne voit pas le soleil, c'est-à-dire celui du rêve. Rarement poète a su se placer avec cette justesse sur la ligne qui sépare le monde réel du monde intérieur, et s'adosser, au milieu de tant de soleil, contre un mur éclairé de lumière infernale. La mélancolie de Nerval est un sentiment d'identité profonde, cette preuve d'existence individuelle que donnent si peu, contre toute attente et contre la promesse de leur appellation, nos écrivains romantiques. La communication avec un monde irréel n'est pas pour lui un événement rare et plein de conséquences, mais un phénomène journalier. Il arrive même, et c'est ce qui fait le tragique de la seconde partie d'Aurélia, qu'à certaines époques, le rêve devienne pour Nerval l'événement normal qu'il dépeint avec la langue courante et qu'il décrive au contraire chaque événement réel, chaque rencontre d'amis, chaque objet avec le langage qui convient au rêve. Le fait qu'il n'est pas disposé ni doué pour la recherche métaphysique ou physique lui fait perdre à chaque instant cette base de départ que ne perdent jamais de vue les philosophes, dans la certitude où ils sont qu'ils n'ont d'autre point d'appui qu'eux-mêmes pour soulever le monde, et ils passent sans effort d'un bord extrême à l'autre de sa double vie, longtemps heureux noyé, si cher Nerval, avant d'être un pauvre pendu, et ne retrouvant l'air libre que grâce au jeu normal de tout Ludion. Il n'a pas pour le monde invisible de curiosité morale, ou religieuse, ou métaphysique, mais bien la curiosité que nous avons, nous, pour les paysages et les événements. Il veut le voir. C'est à cause de cette constante plongée en soi-même que l'on pourrait publier sous la rubrique « Écrits intimes » toutes les nouvelles de Gérard de Nerval avec autant de raison qu'Aurélia. On s'étonne souvent de la rareté dans notre littérature de ce qu'il est convenu d'appeler les écrits intimes. C'est qu'il suppose un élément indispensable. l'intimité de l'auteur avec soi-même. Et c'est une liaison que la plupart de nos grands écrivains ont évitée. D'abord parce qu'ils sont catholiques et qu'ils craignent cet ennui de soi que les protestants n'éprouvent jamais. Un appel de ténèbres, c'est ce qu'aucun ne voulait à aucun prix. Un peuple catholique, habitué à solder par la confession dans un placard sombre et au moyen d'un langage presque chiffré pour le pénitent même, les illogismes et les dépôts de sa vie, se sentait peu porté à changer cette liquidation mensuelle ou semestrielle contre un débat journalier. La contemplation de la vie intérieure est trop dangereuse pour qu'on ne cherche pas à la remplacer par la simple utilisation de précédents qui dispensent de tout verdict nouveau ou particulier dans ce procès que l'homme mène contre soi-même, et à s'en remettre à ce code tout fait où sont inscrits d'Œdipe à Werther des exemples qui épargnent tout jugement nouveau. De plus, le nombre des péchés capitaux, le nombre des vertus est si restreint qu'il ne permet en général à une âme pieuse qu'une identification terriblement approximative et lâche de ses aventures. Cet arc-en-ciel, à 7 grossières couleurs, n'autorisait que des peintures bien peu nuancées. Enfin, dans un jeu aussi logique et aussi élevé que celui de nos classiques, où les plus profondes découvertes du cœur humain ont été faites à une infinie distance de lui-même, par déduction, sur des âmes depuis longtemps évanouies et parfois inventées, comme celle d'Andromaque ou celle de Phèdre, de même que les vraies lois de notre planète l'ont été sur des astres éteints ou à peine visibles, tout mélange de l'expérience personnelle à ces calculs impartiaux risquait de passer pour un accès d'orgueil ou un essai de trucage. Introduire comme tard son propre poids sur une telle balance ne pouvait que fausser les résultats ou les rendre suspects. Cette méfiance était d'ailleurs justifiée. Chaque fois qu'un écrivain français vit dans sa propre intimité, au lieu de s'écrire à soi-même comme tant d'Anglais et de Suisses, un nombre prodigieux de lettres faussement fraternelles, ou de mener avec un double qu'il a besoin de la glace pour voir un dialogue mi-paternel et mi-filial, que ce soit Pascal ou Rimbaud, cette intimité est l'antichambre des transports et de la désolation. Tant il est vrai que l'esprit français, au lieu d'être la négation ou l'ignorance des puissances du mal, les présuppose, est bâti sur elles et en est le seul antidote. Dès qu'un Français renonce à cette dispense de pesanteur que lui a accordée sa civilisation, il sait tomber plus vite et plus profond qu'aucun autre dans l'abîme. Tant d'abîmes se creusaient au-dessus et au-dessous, à la droite et à la gauche de Gérard de Nerval, qu'il ne pouvait choisir. Cet équilibre, par la multiplicité des attirances infernales, c'est la vie de Gérard pendant les 5 dernières années de sa vie, et c'est le sujet d'Aurélia. Aurélia fut trouvée dans les vêtements de Gérard de Nerval quand ses amis, après sa mort, vinrent le reconnaître. Le récit est la description d'un tel conflit entre la vie et le rêve, ces deux mots étant pris dans leur sens propre et non, comme dans Goethe, dans un sens littéraire, qu'il semble une préface passionnément mais volontairement écrite au suicide qui allait l'interrompre. C'est une suite d'illuminations et d'apothéoses autour d'une âme chancelante, un cadavre éclairé à tous les feux de Bengale, parfois l'observation presque médicale d'un cas désespéré. On dirait que Gérard de Nerval a voulu, par ce document auquel tout concourt à donner un caractère sacré, supprimer de sa vie tout alibi qui eût pu faire attribuer sa mort à d'autres qu'à lui-même. C'est un appel qui aurait pu précéder aussi bien une évaporation, une désincarnation, une explosion, que la mort choisie par Nerval. Aurélia nous donne sans cesse l'impression d'avoir été écrite à un niveau qui n'est pas le nôtre, tantôt à mi-hauteur de nos imaginations les plus hautes, tantôt à mi-profondeur de notre plus grande désolation. C'est ce passage constant du zénith au nadir qui coupe notre respiration et, égoïstement, nous fait presque regarder comme des asiles de paix et de raison les points où Nerval se pose parfois à notre portée, c'est-à-dire les maisons de santé et de fous. Il est inutile d'attirer l'attention du lecteur sur les différentes expressions de ce pathétique, et en particulier sur le mélange émouvant de ce monde infernal et de Paris, dont se précise, chaque fois que la nuée s'éclaircit, un décor familier. Sur ce qui reste de Parisien dans ce corps déchiré par les fatalités, sur cette fin du monde qui commence place de la Concorde, ce déluge qu'on voit monter de Montmartre à l'aube, alors que chantent les coqs de Paris. Sur cet apocalypse où passent tant de braves sergents de ville, et où une douceur, soudain éclatante, dévoile à l'improviste un bourg ou un ruisseau du Valois. Je voudrais seulement le mettre en garde contre une mauvaise interprétation des études publiées récemment sur Aurélia, et dont la plus complète et la plus attentive est celle que publia l'année dernière chez Champion M. Pierre Audiat. L'histoire d'Aurélia telle qu'elle est établie par M. Audiat semble à première vue lui retirer le caractère d'une œuvre précipitamment conçue et réalisée. Aurélia contient une série d'épisodes ou de descriptions que Nerval avait déjà utilisées. La chronologie des faits qu'allègue Nerval n'est pas exacte. Les réminiscences y abondent. Mais c'est justement le dessein de M. Audiat de montrer que les œuvres mythiques paraissent enfermer plus de vérité que les œuvres confidentielles. J'irai plus loin. La lecture d'Aurélia me paraît plus émouvante par la modestie avec laquelle Nerval a confié son destin à son art, par la confiance qu'il a faite à sa profession et le souci qu'il a eu de préférer au testament ou à la confidence une forme littéraire. Aurélia est, à mon avis, une leçon suprême de poésie. Le poète est celui qui lit sa vie, comme on lit une écriture renversée, dans un miroir, et sait lui donner, par cette réflexion, qu'est le talent et la vérité littéraire, un ordre qu'elle n'a pas toujours. Gérard de Nerval avait pu reconnaître que les éléments d'une vie poétique lui avaient été distribués avec abondance, mais sans habileté. La femme qui devait le consoler d'une autre femme était venue avant celle-ci, non après. Les rêves qui prédisaient suivaient parfois l'événement. Mais il n'y a de vrai poète que celui qu'anime un sentiment de justice et de pardon vis-à-vis de Dieu qui ignore peut-être que les hommes vivent dans le temps et que les événements de leur vie comportent un enchaînement de cause à effet. En amplifiant, en modelant Aurélia, Nerval n'a pas désiré autre chose que de bien préciser à la vie qu'il l'avait comprise. Il est doux, c'est même la seule douceur pour un écrivain, de se confier à son talent comme à un démiurge personnel et inoffensif. C'est parce que le talent, parce que la joie du talent, a pris le dessus sur les autres génies qui chevauchaient Nerval, qu'Aurélia, loin de présenter l'incohérence et l'équivoque de nos actuelles interprétations du rêve, donne l'impression d'une logique, d'une béatitude, d'un consentement parfait. Comme nous aimerions mieux savoir de nos jours que le mot freudisme vient non de Freud, mais de Freud. De même que chaque artisan s'ennoblit en mourant de la mort que comporte son métier, notre estime de Nerval grandit encore à voir cet écrivain, au point extrême et diabolique de sa vie personnelle, garder avec elle les convenances et la joie de sa profession. Jean Giraudoux.